On va aller lire un passage dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et nous allons parler ce matin d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous, la maladie. Hier, je suis allé voir un ami qui est à l'hôpital, à l'Institut Paoli Calmette, à Marseille. Donc, j'ai découvert, évidemment, que c'est le centre de cancérologie, hein, au centre de cancérologie. Et c'est un frère, il était ancien dans l'église où j'étais avant. On avait pas mal fait de choses ensemble et une certaine affinité, une certaine affection entre nous. Et il m'a dit, tu vois, je me suis écroulé d'un seul coup, ça m'est tombé dessus. Ils ne savent pas où est l'origine demain, donc aujourd'hui, il doit passer un scanner particulier ou un IRM particulier pour essayer de retrouver l'origine de ce mal. Ça aurait touché le foie. Tout le monde lui demande, le corps médical, s'il a bu, il n'a jamais bu de sa vie. Alors, c'est particulier. Là, il y a quelques jours, il a été opéré à la Timone parce que, en fait, il s'est écroulé à plusieurs niveaux. Il a une vertèbre aussi complètement détruite. Et avant de faire d'autres investigations et ensuite un traitement, il fallait consolider cette vertèbre pour qu'il puisse se tenir debout. Parce qu'en fait, il s'est écroulé physiquement. Il est arrivé à son lit en faisant ce qu'il pouvait par terre. Et donc, on a ouvert la parole de Dieu, on a parlé, mais il n'a pas broché d'un iota dans sa foi. Il m'a dit l'autre jour, j'ai sympathisé avec un brancardier, alors je me suis dit brancardier, il a dû entendre ce qu'il devait entendre. Voilà. Et à la fin, il lui a dit, écoutez monsieur, que Dieu vous bénisse. Il a dit, il est revenu du couloir, il est venu m'embrasser. Voilà. Donc, on est touchés tous, les uns et les autres, par des problèmes de santé, mais nous ne pouvons pas baisser les bras parce que c'est pas bon pour nous déjà, et puis au travers des passages difficiles dans notre santé, c'est aussi le moyen d'avancer dans la foi, de progresser dans la foi et de faire du bien aux autres qui peuvent passer eux aussi par des problèmes et eux ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas le soutien que nous pouvons avoir, la connaissance de la fidélité, de la bonté de Dieu. Alors on va méditer un petit peu sur ce sujet qui est un sujet universel, malheureusement, à partir de ce passage de Timothée, deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 20. 2 Timothée, chapitre 4, et verset 20. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade, à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Bulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Amen. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc, la maladie a toujours touché tous ceux qui sont sur la terre et également, pas plus, pas moins, on n'est pas logé à une enseigne particulière à ce sujet-là, ceux qui connaissent Dieu qui se confient en lui. Mais par contre, ceux qui connaissent Dieu qui se confient en lui, eh bien, peuvent demander la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans leur vie, et le Seigneur le fera. Alors, pour parler très concrètement, je ne sais pas quel est le problème de santé qui vous touche. J'oserais dire, on va peut-être le faire. Tous ceux qui ont un problème de santé, à part le rhume et ce style de petits trucs liés à l'hiver, mais on parle de choses sérieuses, ben, levez la main. Pas plus que ça. Bon, c'est formidable. T'as mieux. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Et voilà. Moi, j'ai eu un problème de santé duquel Dieu m'a sorti. Quand j'étais enfant, c'est un peu beau à ce moment-là quand ma famille a commencé à venir au Seigneur et ma sœur aînée aussi. C'est elle qui un petit peu nous a amené ensuite. Voilà, j'avais un problème qui était une allergie. Quand ils ont trouvé à quoi j'étais allergique, c'était pas réglé, j'étais allergique au pot d'échappement des voitures. Alors, on est mal dans le siècle dans lequel on vit. Voilà. Alors, piqûres et tout ce que vous voulez, des années, 5 ans de cure. Voilà. J'avais un collègue, un jeune comme moi, on était des gamins. On était la première année, on était ensemble dans le même institut. Et lui, il avait déjà un poumon qui fonctionnait moins. Voilà. Comme quoi, c'était quand même sérieux, ces affaires-là. Et Dieu m'a fait grâce. Jamais eu de séquelles. Le Seigneur a été bon, il a été fidèle. Voilà. Il avait eu un avantage sur moi, c'était peut-être lié à autre chose aussi, c'est qu'il pouvait faire des efforts intenses mais courts, parce qu'après il ne pouvait plus continuer à cause d'un manque de capacité respiratoire. Voilà. Et puis beaucoup plus tard, j'ai découvert une autre chose qui m'est arrivée. Si je vous en parle, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour parler vrai. Ils ont mis un certain nombre de temps à le découvrir, une dizaine d'années à peu près. Et là, c'est d'ordre génétique. Donc, il n'y a pas de traitement. Mais à un moment donné, je n'étais pas marié. Si je dis ça, c'est parce que quand on est marié, quand on est avec quelqu'un, des fois, on peut être aidé. Mais là, j'étais complètement coincé par moment. Et une fois, je me rappelle, je regardais le réveil. Et le temps passé, le temps a passé. Ça a fait plus d'un quart d'heure pour arriver à tourner les jambes et sortir et s'asseoir au bord du lit. Et bon, ben alors maintenant, pas arrivé hein, au téléphone, hein, parce qu'il n'y avait pas encore les portables. Enfin, je ne suis pas un dinosaure non plus, mais. Et comment vous faites pour aller au téléphone? Ah, j'avais pas prévu, moi j'avais 26 ans, j'avais pas prévu de déjà mettre le téléphone à côté du lit au cas où il faille appeler. Voilà, parce que de toute façon, pour se tourner vers le téléphone, c'était pas réglé non plus. Alors j'ai réussi tant bien que mal à arriver au téléphone, mais il fallait pas que la chaise glisse. Sinon, je ne me relevais plus. Et c'est le radiateur, comme quoi c'est important de bien fixer les radiateurs au mur. C'est le radiateur qui m'a permis de me relever. Et si le radiateur, je me disais, s'il lâche, alors je vais être mal. Parce que je vais me retrouver avec le radiateur et la tuyauterie d'eau, parce que c'était un central, qui a explosé et tout dessus. Voilà. Et alors, qui a appelé? Quand on est tout seul. J'ai appelé le pasteur. Parce que j'étais stagiaire et je ne voyais pas qui d'autre appelait. Alors il arrive, je lui dis, vous m'amenez à la clinique. Voilà, arrivé à la clinique, ça allait un petit peu mieux, j'arrivais à marcher, et ils n'ont rien trouvé. Et ça a duré des années, des années, des années. Et puis de temps en temps, ça me touchait les yeux parce que c'était un problème inflammatoire. Et là où c'était difficile, c'était quand j'étais dans le Gers. Parce qu'on dit que le bonheur est dans le pré. Les routes du Gers, l'hiver, avec les nappes de brouillard entre Auch et Nogaro. Allez à Nogaro, c'est magnifique. Les routes sont comme ça, avec des nappes de brouillard. Et quand vous avez un voile devant les yeux, je vous assure que c'est coton pour arriver à bien tout faire. Et ça durait un mois. Alors, je ne m'arrêtais pas. C'est pour dire, et je termine là sur ce point, que certaines personnes, quand elles sont malades, s'effondrent, baissent, elles n'ont plus de morale, se laissent aller. C'est peut-être un trait de caractère, je ne sais pas. Je ne dirais pas que c'est mieux, parce qu'au moins elle s'arrête. Il y en a d'autres, ne s'arrêtent pas. C'est pas mieux, parce qu'il faudrait qu'elle s'arrête. S'arrête pas. Alors, je ne sais pas quel trait de caractère vous avez quand la maladie vous touche, mais moi je sais quel est le mien et je m'arrête pas. Un jour ou l'autre, on s'arrêtera de toute façon. Quand on prend le mur, on s'arrête. Mais ça, c'est une chose. Et à côté, et au-delà, et au-dessus, il y a la grâce de Dieu. Et Paul le dit. Et apparemment, Paul fait partie de cette catégorie qui ne s'arrête pas facilement. Alors, il dit, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Il n'a pas pu rester avec lui. Il a continué son chemin. Et pourtant, Paul était aussi quelqu'un qui avait quelques problèmes de santé. Pour lui, on le sait, c'était aux yeux. Je pense qu'il n'y avait pas que les yeux, parce que vu tout ce qui lui est arrivé, en tout cas que l'on connaît, pendant qu'il servait le Seigneur, il a été plusieurs fois laissé pour mort après avoir été roué de coups. À mon avis, ça doit laisser des séquelles. Il a été jeté en prison, il a été dans la faim, il a été dans le désarroi, il a été dans l'abandon de la part de ceux sur lesquels il comptait. Ça aussi, ça vous affecte. C'est pas physique, mais c'est psychique. Et quand on vous a lamentablement abandonné pour le siècle présent, comme il le dira de certains, et pour d'autres, il dira « méfie-toi d'eux », en parlant à Timothée, eh bien ce sont des choses qui vous affectent. On a tous été malmenés. Et tant que nous serons dans ce monde, ce sera notre lot. Parce que le monde a versé dans le dérèglement le plus total à cause du péché. Le péché nous a amenés dans une vie sans Dieu et tout s'est déréglé. Absolument tout s'est déréglé. Et tout le monde est impacté. Et le Seigneur vient. pour que nous soyons secourus, pour que nous soyons relevés, pour que nous soyons restaurés dans notre âme aussi, pour que nous soyons guéris dans notre corps et des foules entières s'approcher du Seigneur Jésus. Et voilà, concernant Trophime, on ne sait pas quelle était sa maladie, mais Paul a dû le laisser, il a continué son chemin. Alors, quand on est malade, parfois on se retrouve tout seul, si ce n'est toujours. On se retrouve tout seul dans la maladie. Et il faut affronter cette maladie qui nous touche. Et c'est là que l'on va compter sur le Seigneur. C'est là que l'on va prier. C'est là que l'on va jeûner, peut-être. C'est là que l'on va tout faire pour être guéri. Et la première des choses que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est de nous relever, de nous guérir. Et il faut oser faire confiance en Dieu. Ne baissez jamais les bras dans la maladie qui vous a touché ou dans celle qui vous touchera. Faites confiance à Dieu. Mais notre confiance à Dieu n'exclut pas la sagesse, n'exclut pas la compétence de ceux qui nous entourent. Il y avait cette femme qui est atteinte de perte de sang et pendant des années, eh bien, elle a été entre les mains de médecins mais qui n'ont pas pu trouver le remède à son mal. Alors elle a continué son chemin, sa recherche. Et elle s'est approchée du Seigneur Jésus et elle a su, à un moment donné, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et j'oserais nous dire que dans la maladie, il y a un process. Il y a une progression qui doit être cohérente et qui doit être normale. Nous cherchons à être soignés et nous continuons en faisant confiance à Dieu. Parce que nous avons commencé comme ça. Et si par la grâce de Dieu, eh bien, les remèdes et les traitements et les personnes compétentes qui existent eh bien, m'amènent à la solution, merci Seigneur. Et s'il n'y a pas dans leurs compétences d'aujourd'hui, puisque tout est en progression, en permanence, des solutions, eh bien, nous continuons la démarche vers Dieu et à un moment donné, la grâce de Dieu va se manifester. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faudra jamais, parce que c'est une erreur, mettre en opposition ce que Dieu a donné aux hommes en termes de compétences et ce qu'il nous a tous donné en termes de confiance en lui, de foi. On ne mettra jamais, et il ne faut pas mettre en opposition la science et la foi. La capacité des hommes et la confiance en Dieu. Luc, l'évangile de Luc, qui est un médecin, n'a jamais mis en opposition les deux. Mais il a simplement mis en avant le miracle de Dieu quand il n'y avait pas d'autre solution en avant. Avant cela. Voilà. Et nous devons être des hommes et des femmes sages dans notre démarche de foi, dans notre démarche spirituelle, quand nous avons un problème de santé sérieux pour lequel eh bien, nous devons marquer un temps d'arrêt, faire des examens, trouver des solutions et ensuite continuer jusqu'à dire Seigneur, mais j'attends que tu poses ta main et que tu interviennes. Voilà. Et le Seigneur le fera. Prenez, pour exemple, comme modèle de souffrance, les prophètes qui ont été avant nous, dira l'apôtre Jacques. Donc on n'est pas les seuls à avoir ou à être impactés dans notre santé par des problèmes sérieux. Ceux qui nous ont précédés aussi. Et ils nous montrent le chemin. Ils se sont soignés et ils ont fait confiance à Dieu. Mais rien ne les a arrêtés. Sauf quand c'était trop fort. J'ai laissé Trophime malade à Milet. Mais Trophime ne va pas arrêter toute sa vie malade. Le Seigneur va le relever. Et l'apôtre Paul, eh bien, a continué son chemin. Et ça, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Nous devons demander l'onction d'huile, la prière des anciens. Parfois, nous le faisons, et là, j'ouvre une parenthèse, au niveau de l'Église. C'est-à-dire que celui qui est malade, il vient à l'Église pour demander l'onction d'huile. Toutes les églises évangéliques versent dans cette pratique-là. Et je me dis, au regard des Écritures, que notre habitude doit peut-être être un petit peu revue. De temps en temps, il faut être objectif. Hein. Il faut oser se poser les bonnes questions et tout remettre à plat. Non. Celui qui est malade et qui appelle les anciens, ce n'est pas parce qu'il peut venir à l'église. C'est parce qu'il ne peut pas venir. Alors, il appelle les anciens. Et dans notre pratique d'onction d'huile à l'église le dimanche, je ne veux pas dire que c'est une erreur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je veux dire qu'on est peut-être un petit peu décalé. Parce que c'est plutôt pour ceux qui ne peuvent pas venir. Et quand quelqu'un, et là je fais une annonce très officielle, et que je considère comme vraie au regard des Écritures, quand quelqu'un ne peut pas venir à l'Église, qu'il appelle. Qu'il appelle. Parce qu'on ne sait pas forcément que quelqu'un, ce jour, est malade. Qu'il appelle les anciens, et les anciens viennent, et loin de lui, les prient pour lui. Et c'est cela que nous devrions mettre en avant en premier. Ça veut dire que dans notre, on va dire ça comme ça, dans notre gestion de la maladie, parce qu'on doit la gérer, la maladie, de toute façon, celui qui ne fait rien, il la gère. En ne faisant rien, il la laisse filer. Voilà. Mais le Seigneur nous demande de la gérer. Et appeler les anciens pour la prière et l'onction d'huile, à mon sens, c'est une démarche tout aussi importante, si ce n'est plus, que le fait d'appeler son médecin. Nous appelons le médecin, pourquoi n'appelons-nous pas les anciens? Il faut peut-être qu'on se pose les bonnes questions. Hein. On a des réflexes standards. Je suis malade, je ne peux pas sortir de chez moi, j'appelle le médecin. Et le Seigneur pourrait nous dire, hé, et tu es chrétien, tu n'as pas oublié quelque chose là? Appelle les anciens, appelle les chrétiens, appelle quelques frères et sœurs afin qu'ils prient, qu'ils viennent te voir, et qu'ils prient avec toi, et qu'ils prient pour toi. C'est biblique. Ils imposeront les mains aux malades. Ce n'est pas écrit dans les murs de l'Église. D'autant qu'à l'époque, les constructions n'étaient pas comme celles que nous avons aujourd'hui. C'était dans les maisons, c'était là où ils étaient, c'était là où ils vivaient. Qu'ils prient pour les malades. Et les malades seront guéris. Pourquoi dans notre gestion de la maladie, nous n'oserions pas mettre notre foi en action avant de mettre autre chose en action? À mon sens, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses. Quand vous appelez le corps médical, une fois que le diagnostic est posé, ils vont tout mettre en œuvre. Tout. Et c'est là où il vaut mieux habiter près d'un centre où il y a tout, qu'au fin fond de l'Afrique, hein, sans vouloir mépriser, mais c'est pas, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes distances et les mêmes facilités. Mais ils vont tout mettre en œuvre pour aller vers la guérison. Mais nous, sommes chrétiens, mettons tout en œuvre avant eux. Mettons Dieu dans l'affaire. Mettons les frères dans l'affaire. Mettons les anciens dans l'affaire. Mettons la confiance en Dieu dans l'affaire. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas suivre les autres indications qui vont m'être données par le médecin ou le corps médical. Mais ça veut dire que dans l'affaire, Dieu et la démarche spirituelle ne vient pas après, mais elle vient avant. Ayons une gestion de notre problème de santé sérieux de cette manière-là. Parce que, de toute façon, l'autre cheminement, on l'a tous vécu, on le connaît. On appelle le médecin qui fait ce qu'il peut. J'allais dire le pauvre, non. Mais il fait ce qu'il peut, il fait tout. Et ça ne s'améliore pas. Alors là, on est effondré. Et on arrive devant Dieu, effondré. On arrive devant les frères, effondré. En disant, il n'y a plus d'espoir pour moi. Pourquoi arriver, attendre d'être effondré pour s'approcher de Dieu, appeler les frères pour l'onction d'huile, en parler à l'Église? N'attendons pas d'être effondré. Mettons tout en avant, dans l'autre sens et dans l'autre dimension des choses. Et la maladie, ensuite, il faut la vivre tous les jours, jusqu'à ce que ça s'arrête. Et même si ça ne s'arrête pas. Parce que le propre de la maladie, c'est que ou elle s'arrête, par une intervention ou par une autre, y compris l'intervention de Dieu, le miracle de Dieu, ou ma grâce te suffit. Comme dira le Seigneur à l'apôtre Paul. Et dans ce cas-là, ça ne s'arrête pas. De toute façon, que ça s'arrête ou que ça ne s'arrête pas, il faut la gérer au quotidien, tous les jours. Paul dira à Timothée, tu as de fréquentes indispositions. On plaisante un petit peu avec cette affaire-là parce qu'on connaît la suite. Et à cause de tes fréquentes indispositions, bois un peu de vin. Nous, on connaît la suite. Voilà. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des fréquentes indispositions. Si ce n'est tous. C'est comme ça qu'on justifie le tanin et tout le reste. Hein. Il me faut du tanin. Alors, où on trouve le tanin? Jusqu'à présent, on le trouve dans les bons vins. Donc, du coup, ça justifie la chose. Mais, on plaisante avec ça aujourd'hui, mais à l'époque, avoir de fréquentes indispositions intestinales, c'était peut-être pas si simple que ça à vivre. C'est un petit peu comme lorsque les touristes vont dans certaines régions du monde, et qu'ils ont certaines indispositions, c'est là qu'on rigole plus. Ça peut être l'objet d'un rapatriement sanitaire. Alors merci Seigneur pour les avions et le rapatriement sanitaire. Mais Timothée avait de fréquentes indispositions. Et si on devait nous mettre dans le contexte de l'époque, ça ne devait pas être simple à gérer tous les jours. Ça ne devait vraiment pas être simple à gérer tous les jours. Et tous les jours, il avait ce petit problème à gérer. Voilà. Eh bien, la maladie se vit au quotidien, la maladie se gère. Et ce n'est pas parce que tous les jours on a des tracas, des désagréments, etc., qu'on ne fait plus rien. L'œuvre de Dieu continue, notre vie continue, la vie de la famille continue. Il ne faut pas se laisser gagner au niveau du moral. Il faut continuer de se confier en Dieu et de dire « Seigneur, mais donne-moi la force de prendre le dessus. » Quand je suis coincé, je suis coincé, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je ne veux pas rester par terre, je ne veux pas rester effondré. Je veux que tu m'aides à me relever. Paul, lui, avait de graves problèmes aux yeux, à tel point qu'à un moment donné, il ne pouvait pas écrire. Alors, il demandait à quelqu'un d'autre d'écrire. Et c'est ce qui ressort dans les salutations et des lettres de l'apôtre Paul. Voilà, il dit, regardez avec quel grand caractère, littéralement caractère d'imprimerie, je vous ai écrit, dira-t-il aux Galates. Et pour d'autres, il dira, eh bien, c'est un tel qui a écrit sous ma dictée. Voilà. Il gérait au quotidien. Alors, quand on écoute les personnes qui sont comme ça affectées, on ne sait plus ce qu'il faudrait souhaiter. Moins entendre ou moins voir. Je ne sais pas. On pencherait vers celles qui disent que c'est mieux de moins entendre. Comme ça, on n'entend pas certaines choses. On est plus tranquille. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, moins voir, ça c'est difficile. Pour lire la parole, c'est très pénalisant. Je ne sais pas comment Paul lisait. On sait que quand il a dû écrire, c'était en gros caractère. Est-ce qu'il y avait une copie gros caractère pour les malvoyants? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Hein. Je vous renvoie vers le petit appareil qu'on a fait avoir à une bonne quinzaine de personnes, la Bible audio. Mais ça veut dire que si on l'écoute, c'est que peut-être on n'arrive plus à la lire. Voilà. Eh bien, si vous arrivez moins bien à lire la Bible, il y a d'autres moyens pour se nourrir de la parole de Dieu, mais dans tous les cas, il ne faut pas baisser les bras. Et Paul va prier, et le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit. Comment ça, Seigneur, c'est quand même fort. Je suis l'apôtre. Il ne le dira pas comme ça, mais nous, on pourrait éventuellement le reprendre à notre compte. Je suis l'apôtre. Tu m'as chargé d'une mission qui est extraordinaire. Jamais personne n'a écrit les épîtres que j'ai écrites. Nous, c'est le constat que l'on fait. Et pour les écrire, tu me laisses avec un grave problème aux yeux. Oui, revendiquer comme cela devant Dieu. Pour me déplacer, tu me laisses avec un grave problème aux yeux. C'est comme ça. Il a prié, ma grâce te suffit. Et cet homme, au bout de la troisième fois, a dit, bon, ben alors, ma force, c'est ma faiblesse. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, désormais, ma force, c'est ma faiblesse. On va le lire dans 2 Corinthiens 12, 9. Et je vais vous inviter à une transformation, un phénomène particulier. Une transformation spirituelle qui va jusqu'à une transformation d'état d'esprit, voire même d'état de cœur et d'état d'âme. 2 Corinthiens 12. Verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je nous invite à cette transformation-là. Quand je suis faible, qu'est-ce que je fais? Eh bien, demandons la grâce de Dieu pour arriver à transformer cette spirale descendante, ce phénomène néfaste, pour nous, à tous les points de vue, néfaste au niveau de la santé, premièrement, de notre état d'âme, de notre état d'esprit, et puis de notre capacité spirituelle, parce que là, on est atteint, là, on est affecté. Transformons-le, ce problème qui nous amène à l'affaiblissement, et disons, avec l'aide de Dieu, en comptant sur la grâce du Seigneur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donne-moi la force dans ma faiblesse. Non pas pour que je ne sois plus faible, mais pour que cette faiblesse soit transformée en force. Ça veut dire que je vais toujours être faible. Sur ce point-là, je serai toujours faible. Paul est toujours faible au niveau des yeux. Mais qui s'en rend compte ? Il trouvera le moyen d'écrire les lettres. Ah oui, je ne peux plus écrire moi-même, parce que maintenant, il faudrait carrément un tableau. Eh bien, je vais prendre quelqu'un qui va le copier et qui va l'envoyer. Et quand nous lisons les lettres de l'apôtre Paul, on dit « Seigneur, merci, il me fait du bien ». Lui, il est dans un mauvais état. Et surtout, quand on creuse un peu la question, on se rend compte qu'il a écrit du fin fond d'une prison qui, rien qu'en soi, tuait les gens. Les prisons romaines, c'est loin d'être ce que nous connaissons aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il faudrait améliorer. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Il était au fin fond d'une prison romaine. Et il y rentrait faible. Mais il nous envoie des messages d'une force, d'une vigueur, d'une fraîcheur qui, au bout d'un moment, nous amène à oublier dans quel état il était et où il était. Et quand vous lisez, vous continuez, vous dépassez les épîtres de Paul et vous arrivez aux épîtres de Jean, c'est un vieillard exilé sur une île. Il est à Patmos et il va écrire l'Apocalypse de Jean. Quand je suis faible, je suis fort. L'Apocalypse de l'apôtre Jean, le livre de la Révélation, est tellement fort que même les plus forts aujourd'hui, excusez l'expression, s'y cassent les dents. Parce que c'est l'objet d'une révélation. Un vieillard, exilé sur une île, où, s'il avait été plus jeune, c'était les travaux forcés. Puisque l'île de Patmos, c'était les forçats envoyés là pour travailler dans les mines. Mais lui, il était exempté. Alors je pense qu'à l'époque, il ne devait pas faire dans la dentelle. S'ils ne l'ont pas envoyé travailler, c'était qu'il n'était pas en état de travailler. Bien vieux. Pas dans le sens de l'âge. C'est, physiquement parlant, il était incapable. Et là, l'apôtre Jean est au large de la Turquie actuelle, de l'Asie mineure, et il sait qu'il y a les églises là-bas. Et il pense à ces églises là-bas, ça le travaille au plus profond de lui-même. Et l'Esprit lui révèle, et le Seigneur vient se révéler à lui. Autrement dit, mes frères et sœurs, si vous rajoutez à cela le livre de Job, les plus belles pages de la parole qui ont force pour nous relever, pour nous fortifier, ont été écrites par des gens abîmés. Et pas qu'un peu. Job, c'est loin d'être léger ce qui lui est arrivé. L'apôtre Paul, je me dis que si nous arrivait dans notre vie tout ce qui lui est arrivé, plus le problème aux yeux, dans quel état serions-nous ? Et bien lui, il est dans un état, au contraire, qui est inversement proportionnel à ce qui lui est arrivé. Et l'apôtre Jean, c'est un petit peu comme le Seigneur qui nous le montre de cette manière-là, ça finit en beauté. Le livre de la Révélation, ça a commencé avec la Genèse, qui était magistrale, et ça finit avec quelque chose de tout aussi magistral, avec les dernières pages, le nouveau ciel et la nouvelle terre, où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, les premières choses auront disparu. À mon avis, ça a dû lui faire plaisir d'entendre ça et de l'écrire. Quelle espérance a dû susciter en lui ? Seigneur, merci, parce que le vieux que je suis, incapable de travailler, puisqu'on me laisse tourner en rond sur cette île, est l'objet d'une révélation, et la première des choses, ou le premier que tu relèves, ben c'est moi. Le Seigneur me parle quand je ne vais pas bien. Je suis sûr qu'il y a des paroles que l'on n'oublie pas, particulièrement celles que Dieu nous adresse quand on n'est pas bien. Je vous renvoie à vos paroles, aux paroles que vous avez reçues, aux dons spirituels que le Seigneur vous a donné quand vous n'étiez pas bien. Et c'est ça notre force. Alors, on ne va pas souhaiter la difficulté permanente, mais quand elle arrive, que nous puissions dire, bon, ben maintenant Seigneur, on relève les manches. On remonte les manches du pantalon, on se met à genoux et on prie. Et on se tient devant Dieu. Et rien ne me fera baisser. Rien ne me fera baisser. Je n'arrive pas à me déplacer. Mais Seigneur, je ne baisse pas le niveau. Voilà. Et je continue de prier. Les malades sont guéris. L'onction d'huile est là. Et il faut tenir ferme. Et quand nous tenons ferme dans la difficulté, l'épreuve a pour vertu d'affermir notre foi. Dans la difficulté, soit on progresse, soit on dégringole. Et de toute façon, on ne reste pas linéaire. C'est où on monte, on descend. Alors, comme nous avons tous descendu, que nous puissions dire, bon, maintenant, ça suffit. Descendre, je connais. Tomber, je connais. Maintenant, ce que je veux vivre, ce que je veux connaître, c'est progresser. C'est me relever. C'est encourager les autres. Et quand vous n'irez pas bien, que vous puissiez vous dire en vous-même, ah non, même en boitant, j'irai. J'allais faire une plaisanterie, vous m'excuserez. Aujourd'hui, la rampe d'accès nous évite même les escaliers. Donc ça veut dire que rien ne peut nous empêcher de venir à la maison de Dieu, si nous voulons venir à la maison de Dieu. Et quand nous verrons quelqu'un au milieu de nous abîmé, qui aurait toutes les raisons de ne pas être là, ça va être pour vous et pour moi une leçon. Méfiez-vous ce que je vous dis. Quand vous verrez quelqu'un qui aurait toutes les raisons de rester chez lui, parce que dans l'état dans lequel il est, tout le monde le comprendrait. Mais cette personne dit non. Pour que je ne bouge pas, pour que je ne vienne pas, au moment de la prière, quand le peuple de Dieu se rassemble, il en faut. Levons la barre de nos empêchements. Faisons l'effort de continuer de marcher, de servir le Seigneur. Et vous verrez l'affermissement de votre foi. Et ceux qui sont autour de vous, ça va leur parler, ça va les interpeller. À un moment donné, l'équilibre va être atteint. Ils vont dire, mais t'es un peu fou là, carrément. Jusque-là, c'était un peu exagéré, mais là, c'est de la folie. Continue de croire en Dieu, tu continues d'être fidèle, tu continues d'aller à la maison de Dieu, mais reste chez toi, reste tranquille. Non, c'est l'heure où le peuple de Dieu se rassemble, je veux y être. Et s'il faut adapter des chaises, ne vous inquiétez pas, on adaptera des chaises. Hein. Et la maison de Dieu, c'est là où est notre place. Et le Seigneur est celui qui a toujours inversé les choses. Inversons les choses. On a tout fait pour qu'ils ne viennent pas nous chercher, nous sauver. Il a tout fait pour y aller, quel que soit le prix à payer. On a tout fait pour que les plus belles pages des Écritures ne soient jamais écrites. Et elles ont été écrites. Et elles nous ont été transmises. Et ce sont aujourd'hui nos plus beaux appuis dans la foi. Écrits par des gens qui avaient toutes les raisons du monde de dire, oh, ben, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre, parce que moi je suis out. Complètement out. Non, ils ont relevé le défi. Alors je termine avec ce point qui est forcément le point culminant. Et lorsque le chrétien meurt, c'est Élie qui est enlevé. Le chrétien qui meurt, c'est Élie qui est enlevé. C'est comme pour dire, il a achevé la course, il a gardé la foi. Et désormais, il est parti dans la maison du Père, là. Il nous a précédés, nous savons où il est. Ce qui nous reste à nous, et comprenez bien que je le dis avec beaucoup de respect, ce qui nous reste à nous, c'est l'ensevelissement. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse correctement, proprement, dans ce sens où on est conscient de la douleur, on est conscient de la séparation, on est conscient de la difficulté que traverse la famille, particulièrement ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et tous ceux qui connaissent Dieu se disent, eh ben, de toute façon, ailleurs, et nous le rejoindrons. Inversons les choses. Et Paul disait et dira que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde, et nous étions toute notre vie dans la crainte de la mort. Aujourd'hui, la mort, si elle arrivait, elle ne se pose plus en termes de crainte ni de peur, mais en termes de point final ici-bas, parce qu'il y a la suite là-haut. Voilà. Et c'est nous qui allons l'appréhender de cette manière-là. Lorsque la vie de quelqu'un s'arrête ici-bas, ça ne s'arrête qu'ici-bas. Et nous savons très bien, et la parole de Dieu est très claire à ce sujet, que celui qui est parti dans la foi, il n'est pas parti n'importe où, il n'est pas parti n'importe comment. C'est le Seigneur qui l'a pris. Les anges ont porté Lazare dans le sein d'Abraham, c'est quand même écrit. Et il a traversé la maladie avec la foi, et il est mort dans la foi. Il a achevé la course, et le chemin, il l'a tracé jusqu'au bout. Alors mes frères et sœurs, que ces situations difficiles qui nous touchent, nous puissions les prendre cette fois à bras le corps en disant « bon maintenant ça suffit, j'ai trop fléchi le genou mais pas de la bonne manière, maintenant je veux fléchir le genou de la bonne manière, j'ai trop baissé les bras de la mauvaise manière, maintenant je veux relever les bras, je veux me ressaisir et par ta parole qui est puissante et qui donne la force et la vie, la vitalité, par l'action de ton esprit qui vient attester au plus profond de mon cœur ces convictions, je veux relever les bras, je veux me relever. » Et je ne vais pas attendre que de sortir de mon affaire pour aller encourager quelqu'un. Commencer à encourager quelqu'un. Voilà. Et vous verrez le bien que ça va vous faire. Vous allez voir la réaction de l'autre. Dans l'état que tu es, tu viens m'encourager à moi? Oui. Oui. Et l'œuvre de Dieu va se faire d'une manière extraordinaire. Voilà, mes frères et sœurs, plaignons-nous. Oui. De ne pas avoir fait ce qu'il fallait jusqu'à présent, peut-être. Mais ne nous plaignons pas du reste. Le reste, on va le gérer. Le reste, j'allais dire, on va lui régler son compte la bonne manière qui soit. Je vais présenter à Dieu les problèmes qui sont les miens pour les gérer maintenant avec sa grâce, pour les gérer avec sa force toute puissante et trouver les solutions, comme Paul a trouvé les solutions pour continuer sa vie, pour continuer l'œuvre de Dieu. Et si ça nous amène à avoir besoin des autres, c'est peut-être un petit peu plus de fraternité dans ma vie, cette affaire-là. Parce qu'en général, quand on est malade, c'est le repli sur soi, on se débrouille tout seul. Et le Seigneur nous montre que non. Là, on a besoin des autres. Déjà pour la prière.